Merci Mathias Sénard, joyeux Noël à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel entretien littéraire en nouvelle année.
Betty. C'est une musique qui est jouée toujours en Iran. Il faut dire qu'en Iran, la musique ne se joue pas dans les grandes salles. Elle se joue dans les petites réunions. C'est une musique de chambre, la musique iranienne.
Pour revenir à la musique, on peut voir toujours en Iran actuel ou au-delà des frontières de l'Iran des bas-reliefs qui représentent pas mal d'instruments de mm-hmm. musique mm-hmm. qui ont une origine millénaire.
La série musicale Zoé Sfez.
Bonsoir, ravi de vous retrouver en cette soirée festive pour une émission comme toujours libre de toutes les provenances, de tous les récits, de tous les modes, de tous les lieux, de tous les hommages. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est toujours la série musicale, bienvenue. Émission hommage en cette soirée si particulière à une culture où la place de la musique et de la poésie, qui marchent souvent main dans la main, sont centrales, chéries, adorées depuis des millénaires. C'est une culture où de jeunes instrumentistes apprennent pendant des années à maîtriser des instruments qui comportent jusqu'à 72 cordes, où les tout jeunes chanteurs et chanteuses mettent en voix avec délice des vers qui ont été écrit il y a plus de 8 siècles, et que des centaines d'autres avant eux ont récité, chanté et ornementé. Pourtant, les musiciens de ce pays, de tout temps, dans un mouvement ambigu, voire carrément paradoxal, n'ont cessé d'être portés au nu et maltraités. C'est évidemment à l'Iran que nous pensons ce soir. L'Iran où plusieurs artistes, parmi lesquels de nombreux musiciens, sont aujourd'hui emprisonnés ou menacés. Alors de l'immense et hyper-fertile scène musicale iranienne, on connaît bien souvent les divas et les rois de la sublime et fameuse Persian pop tels que Gougouche ou Dariush, figures flamboyantes et en exil. Mais avant de les évoquer, il nous faut d'abord en revenir aux racines de cette épopée musicale iranienne, à sa matrice, c'est-à-dire sa musique traditionnelle d'une richesse et d'une rigueur inouïe qui remonte aux temps glorieux et immémoriaux des royaumes perses et Qadjars. Sa musique classique hyper formelle et son répertoire folklorique d'une richesse abyssale qui n'ont cessé de s'influencer mutuellement tout au long d'une histoire qui dure sans doute depuis plus d'une dizaine de siècles. C'est cette musique qui résonne dans tous les cas, dans les cœurs et dans les oreilles d'absolument tous les Iraniens, quel que soit leur bord politique, et que tous les pouvoirs ont tenté alternativement de mettre en valeur, de gouverner, voire de réprimer. Aucune ambition d'exhaustivité, bien sûr, ce soir, tant la matière est riche, mais un récit subjectif et une galerie de portraits de virtuoses que nous aimons beaucoup. Et c'est tout de suite dans la série musicale.
Thank you.
La musique iranienne est un miroir brisé à l'image de ce que l'on trouve dans les grands chefs-d'œuvre de l'architecture persane. On reprend ici l'expression de l'historien Yann Richard, spécialiste de l'Iran, qui raconte, envisage la culture et la musique iranienne comme un seul et même miroir qui réfléchirait la même lumière, mais de façon fragmentée, en mille éclats. De la même manière, le santour que vous entendez ici sous les doigts du maître Darush Talaï ne comporte pas moins de 72 cordes. L'accorder revient à accorder l'équivalent de 18 violons. Et comme lui, la musique traditionnelle iranienne est le fruit d'une histoire si longue, si multiple, qu'on en perd les traces, d'influence si grande, qu'il est difficile de retracer finalement ses origines selon les sources hyper fragmentaires dont on dispose. Cette musique trouverait ses sources dans le glorieux empire perse. Il daterait de l'époque sassanide qui a débuté vers 224 avant Jésus-Christ. Elle préexisterait en tout cas à l'invasion arabe de 642 qui apporte l'islam en Iran. Plusieurs manuscrits médiévaux rendent compte de l'existence d'un répertoire qu'on joue encore aujourd'hui. Transmise exclusivement à l'oral pendant des siècles, la musique classique persane se raconte par ses instruments hyper typiques. Le santour, par exemple, mais aussi le setar, un luth muni de 4 cordes, chéri des mystiques et des lettrés, ou encore le tar, considéré comme l'instrument essentiel de la musique iranienne, mais plus récent, dont la sonorité très brillante, que maîtrisent la plupart du temps aussi ceux qui jouent du santour, se marie très bien avec le zarb, un tout petit tambour capable de 1000 nuances. Il y a aussi le kamanché, qui appartient à la famille des vielles à pic, et qui trouverait ses origines, elle, carrément dans l'Égypte antique. Pendant des siècles, ces instruments, on les a joués dans le luxe feutré des cours royales, avec gros coup d'arrêt pendant la dynastie des Safavides qui proscrit la musique et un véritable âge d'or à l'époque de l'Empire Qadjar au XVIIIe siècle. Jusqu'à la révolution constitutionnelle de 1906, elle reste la forme d'art la plus pure, la plus élevée. Elle se pratique en chambre, chez les aristocrates et les lettrés en tout cas. Elle se formalise de manière extrêmement rigoureuse, comme le raconte le musicien Hassan Tabar, auteur d'un magnifique livre, Les transformations de la musique iranienne.
Je parle de la musique officielle de l'Iran, en persane, Moussiri Rasmi. Qu'est-ce que c'est la musique officielle d'Iran? Cette musique traditionnelle, Moussiri Sonati, classique, savante ou encore musique d'art. La polémique est vive encore aujourd'hui quant à la désignation de cette musique qui est basée sur le mode. Cette musique, musique d'officiel d'Iran, comporte entre 250 et 500 modèles mélodiques qui ont été collectés au cours de l'histoire. Ces séquences mélodiques, premier élément mélodique dans la musique iranienne, s'appellent goucher. Et la classification de ces modèles se désigne par le terme radif. Radif, en iranien, ça veut dire série, ça veut dire que ranger. Depuis un siècle et demi, les mélodies de la musique iranienne ont été ordonnées et classifiées en 7 collections, en total sur 12 modes. Ce mode s'appelle mode Chahargah. Thank you.
Mode Abou Atta, l'un des 250 séquences mélodiques prévues par le Razdif, ce fameux répertoire hyper codifié de la musique classique persane, interprété ici par l'ensemble Mostar, qui est l'un des ensembles les plus importants aujourd'hui de la musique classique persane. Ça ne nous a pas échappé, c'est une voix de femme qui chante, elle s'appelle Sepideray Sadat. Elle fait figure d'exception puisqu'elle est née en 1980 à Téhéran et qu'elle s'est affirmée dans son propre pays comme l'une des plus grandes chanteuses, évidemment, mais aussi joueuse de tar. Ça a été l'une des premières femmes à pouvoir se produire dans la République islamique d'Iran dans les années 2000, après avoir enregistré un très très bel premier album extrêmement respecté par les lettrés à l'âge de seulement 18 ans. Vous l'entendez ici, ce mode est tout à fait différent de celui qu'interprétait Hassan Tabar dans sa démonstration, car oui, ces modes évidemment, comme dans la musique classique occidentale, relèvent chacun d'une certaine émotion. Certaines racontent la mélancolie, d'autres la joie, l'excitation. Sur ces modes musicaux qui sont basés entièrement sur l'ornementation et l'improvisation, évidemment, c'est la voix qui prime, c'est l'intuition. On reprend les mêmes modes éternellement pour essayer d'imprimer sa marque. Ces ornementations ne sont évidemment jamais écrites. Et tout le génie et tout le savoir-faire des musiciens consiste à avoir patiemment intégré pendant des dizaines et des dizaines d'années ce répertoire pour ensuite pouvoir le rendre eux-mêmes. La maîtrise absolue est celui qu'on suit le plus. C'est évidemment le chanteur, car sur cette musique, on retrouve les paroles des plus grands lettrés chiites, et notamment soufis, Hafez ou encore Rumi.
En fait, la musique iranienne est basée sur le chant. Même un musicien, quand il joue, il chante dans sa tête. Ou bien, comme un musicien qui joue, en général, il répond à un chant. Toujours, il y a un dialogue entre chanteur et chant. Donc, de dire que notre répertoire instrumental n'existe pas. Il faut dire répertoire du chant iranien.
Oh,
Gholam Hossein Banan, l'une des immenses stars, l'un des chanteurs classiques iraniens les plus admirés, c'est figure centrale du patrimoine du XXe siècle, de cette musique classique persane qui, en réalité, avec l'arrivée de la révolution constitutionnelle en 1906 en Iran, bascule des petites cours et des salons aristocratiques, toujours à des réunions informelles chez des musiciens, des amateurs d'art. C'est une musique qui reste tout de même très privée, très élitaire, et qui devient en réalité de plus en plus visible avec l'avènement de la radiodiffusion, comme un peu partout. Car 1939 apparaît un acteur fou de la scène iranienne, Radio Téhéran, qui va devenir la radio de la musique classique persane. Le grand public aime de plus en plus cette musique, l'écoute. De la même manière, on commence à organiser des concerts publics un peu comme en Europe, ce qui produit de vraies stars. Et par ailleurs, on adapte cette musique classique persane, elle se mélange. Elle produit par exemple des opérettes. La voix d'un homme comme Gholam Hossein Banan, né dans une famille de musiciens, dont le père était évidemment pianiste mais aussi calligraphe, va s'imposer. Elle reste encore aujourd'hui l'une des voix qu'on entend le plus à la radio. Face à lui aussi, des figures féminines, des figures de virtuoses et des figures aussi de femmes audacieuses. Car évidemment, des femmes s'imposent dans ce registre de la musique classique persane. On retrouve par exemple la figure géniale de Kamar al-Mozouk Vaziri, mezzo-soprane dans son timbre, vénérée pour son immense maîtrise du répertoire de cette musique vocale, qui a, ma foi, le culot ou le courage d'apparaître tête nue sur scène dès les années 20. Cette femme va arrêter de chanter en 1956 après 30 ans d'interprétation et de chansons qui restent encore aujourd'hui dans les mémoires de tous les Iraniens.
Thank you.
Qamar al-Muluk Waziri, dite aussi la reine de la musique iranienne, première chanteuse de musique classique à oser abandonner le hijab pour se produire tête nue face à un public d'hommes. Elle n'est pas la seule à être une audacieuse. On retrouve aussi évidemment des figures de femmes fortes dans d'autres registres de la musique traditionnelle d'Iran. Car à côté de cette musique classique persane qui a été formalisée, on l'a entendu tout au long des siècles et qui résulte dans un format musical extrêmement codifié, on trouve aussi bien d'autres sources dont il serait impossible de rendre compte dans une seule et même émission, des influences qui ont été très fortes sur la musique classique aussi iranienne. Et parmi les répertoires les plus intéressants, les plus spécifiques, il y a celui de la région du Khorasan, une région qui aujourd'hui est une province de l'Iran mais qui pendant longtemps a eu un destin propre, où l'on retrouve une caste particulière, celle des troubadours ou des bardes, qu'on appelle là-bas des bakshis, tradition orale extrêmement forte, avec des bardes donc qui jouissent d'un statut social particulier au sein de cette province, statut social qui leur vient de cette capacité à chanter de très belles ballades amoureuses. Là, les instruments sont spécifiques, ce ne sont pas les mêmes que ceux de la musique classique persane. Encore aujourd'hui, cette tradition des bardes est extrêmement forte, extrêmement puissante dans cette province. Parmi les chanteurs qu'on trouve aujourd'hui, il y a quelques femmes, en tout cas une, dont le destin est très beau. Elle s'appelle Golnabat Tatai. Elle chante avec son mari Mohammad Mohimi. Vous l'entendrez ici dans une ballade amoureuse. Elle récite un poème qui raconte presque l'histoire qui est la sienne, puisque sa famille kurde n'a jamais voulu qu'elle épouse l'homme qu'elle aimait. Elle s'est donc enfuie à 14 ans pour suivre Barat Ali, de 2 ans son aîné, qui fut son maître et lui a appris la forme de lutte très particulière qu'on joue dans le Khorasan. Ça s'appelle le dotar, vous l'entendez ici dans une ballade sakinée qu'elle chante lors des réjouissances villageoises, comme par exemple les fêtes de circoncision.
Sakine. آهنگ سکینه من و آری سکینه لی دل خاکی آل میالانه هواله مال جبر چونه جبری خاله سکینه لی و مبویه کمی سره ای سکینه لطا بیه جای لالا سر حواله لطا دو بیه می نشانسه ای حواله لکه رو بیه شالو دستمال سکینه ریشان بلاکن و چاوو بیریان حواله مثل ملکن موسیقی سر هلینیم سکینه لکل و حرام از لردی هوا لیله ترگره تای نوینیم عزیزه لبن و گره آل میالا نسکینه مال جبرا چونه جبری خاره حواله لو مبونه
Gulnabat Attai, l'une des rares bardes de Khorasan à être une femme qui chante des épopées amoureuses dans la grande tradition des bardes de sa région. Alors, le nombre de provinces, les Turkmènes, les Azéries, qui ont pu influencer la musique traditionnelle, folklorique, mais aussi presque classique persane, sont innombrables, tant l'histoire de l'Iran et de la Perse sont riches. Ce qui est certain, c'est que toute cette tradition musicale se fait entendre à la radio, on l'a dit, à partir des années 30-40, elle se joue en public avec des figures fortes de femmes et d'hommes, de grands musiciens qui deviennent d'immenses stars adulées du grand public. Musique classique persane qu'on écoute beaucoup, mais qui, à mesure que le pays s'occidentalise dans les années 60, va finir par être un peu ringardisé, même si, évidemment, on retrouve à cette époque-là une vraie volonté de s'adapter de la part de cette musique traditionnelle folklorique. Plusieurs grandes stars des années 60 vont produire de la musique sur des petites cassettes qu'on s'échange dans les rues de Téhéran et qu'on entend évidemment leur musique à la radio. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce moment politique où c'est le Shah qui est au pouvoir, on entretient une relation toujours complexe avec cette musique. À la fois, le Shah la revendique puisqu'il essaye d'ancrer son pouvoir politique dans la longue tradition des empires perses et qadjars, mais dans le même temps, il y a une occidentalisation très forte de la société qui va permettre à d'autres formes de musique d'émerger, des musiques beaucoup plus occidentales comme la pop ou la funk. Ce qui est donc intéressant, c'est qu'on retrouve certains artistes formés à la musique classique persane sur à peu près tous ces champs. Beaucoup de chanteuses, à l'image par exemple de Munir Vikali, vont essayer de se produire avec parfois le même répertoire, c'est-à-dire des ballades amoureuses issues du répertoire folklorique dans différents registres avec différents enregistrements. Par exemple, ici, une chanson, Golegandum, qui raconte finalement l'amour et le travail des champs. Golegandum, qui veut dire littéralement fleur de blé, dans lequel la narratrice raconte ses activités, ses travaux agricoles et le ciel bleu dans lequel brille son amour. Vous allez l'entendre ici dans une version qui est, disons, la plus traditionnelle possible. C'est la première qui est sortie au début des années 60.
گره گندم شکفته گره گندم یار گره گندم شکفته گره گندم یار می کارند همچین و همچون گره گندم گره گندم گره گندم یار می کارند همچین و همچون گره گندم گره گندم گره گندم یار گره گندم آسمون نابی و ما می درخشد یار آسمون نابی و ما می درخشد یار حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود درس و حراسی یار حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود درس و حراسی یار گره گند گره گندم یا گره گندم شکفته گره گندم یا گره گندم شکفته گره گندم یا می کارند همچین و همچون گره گندم گره گندم گره گندم یا می چینند همچین و همچون گره گندم گره گندم
Munir Vakili dans Golegandum, une version début des années 60. Vous allez voir qu'en fait, cette chanson folklorique, donc sur le travail des champs et sur l'amour, elle revient tout au long de ces années 60 sous différentes formes et elle raconte d'une certaine manière l'évolution de cette musique, puisque à partir du début du XXe siècle, avec une occidentalisation de la société, on finit par substituer, en tout cas ajouter de nouveaux instruments plutôt occidentaux qui viennent remplacer petit à petit dans la musique classique, à la fois iranienne et dans la musique folklorique, les instruments traditionnels, par exemple l'introduction notamment du violon, de la clarinette, de tous les instruments classique traditionnel en forme d'orchestre, mais aussi, et c'est très important, le piano quart de ton, introduit en Iran depuis l'Occident au début du siècle, qui va prendre une place très importante. Là, par exemple, ça s'entend très bien dans cette autre version de Gole Gandum, cette fois par la chanteuse Pari Zangane. Ce piano magnifique qui, comme vous l'entendez, fait penser beaucoup aux sonorités de cette musique traditionnelle classique. C'est un fameux piano quart de ton. Et cette ballade qui chante le ciel bleu et les chants de chanvre, vous allez la retrouver toujours par sa première interprète, mais dans une version très fidèle en réalité à ce qui se passe à l'époque sur la scène iranienne, d'une part Radio Téhéran qui continue dans les années 40, 50, 60 à passer de la musique traditionnelle et de la musique folklorique, même si ces deux types de musique n'ont pas le même statut, vous l'aurez bien compris, c'est très hiérarchisé en Iran. Et de l'autre côté, de nouvelles radios qui, elles, diffusent de plus en plus une musique pop iranienne, évidemment qu'on chante en persan, mais qui est pleine de nouvelles sonorités. C'est ce qu'on essaye de faire avec cette balade, vous allez voir, en termes d'arrangement, ça n'a plus rien à voir. Typique de la musique classique iranienne. Après donc cet âge d'or des années 60 où Radio Téhéran permet d'interpréter cette musique avec des orchestres qui comptent parfois jusqu'à plus de 60 musiciens pour des interprétations évidemment des classiques de la musique classique persane, mais aussi des auteurs, compositeurs qui connaissent des heures de gloire à Radio Téhéran, Ali Tajvidi, Parviz Yahaghi. Et des grandes stars féminines, pour qui c'est quand même compliqué d'exister sur scène, mais qui sont évidemment très présentes, qui seront un tout petit peu, on l'a entendu, ringardisées par l'essor de la pop iranienne dans les années 70. Néanmoins, parmi les grandes figures de cet âge d'or de Radio Téhéran, on compte des figures comme Marzieh, une immense chanteuse de musique classique, fille d'un imam modéré, dont la famille est issue d'une grande famille de musiciens, qui va régner, on va dire, sur Radio Téhéran et cette scène de la musique classique et aussi de l'opérette persane. C'est elle, par exemple, qui chantera en Iran lors des visites d'Elisabeth II ou de Richard Nixon. Elle chante beaucoup pour le Shah lui-même. La révolution islamique va bien sûr complètement bouleverser le rapport du pays à cette musique. Évidemment, la place des femmes devient de plus en plus compliquée.
شمعی به خلوت دست من گر بر فروزا شمعی در خونه سینه هم بنگر که سوزا شمعی به خلوت دست من گر بر فروزا شمعی در خونه سینه هم بنگر که سوزا برکردم سوی بیکران را تا بشکند نجوای من شاید مگر قفل آسمان ها قفل آسمان ها درگهت باریدم با درگهت باریدم آه ای خدا دست دو برکردم سوی بیگران تا بشکند تجوای من شاید مگر قفل آسمان
بله شما سوال کردید که در زمان من آیا شما میتونستید به آزادی بیاید آواز بخونید؟ نه نمیتونستید.
Vous m'avez demandé si à mon époque je pouvais travailler librement. Non.
مراحل سختی رو من گذروندم تا
Je suis passée par des épreuves difficiles pour continuer mon art. Ce n'était pas possible de chanter librement sans être mal vu.
ولی ما بعد انجمن موسیقی ملی که رئیسش کلنل وزیری بود و روح الله خالقی که تمام موزیسین های بنام که خط موسیقی رو میشناختن اونجا متجاوز از 40-50 نفر بودن که ارکستر بزرگ داشتن که هماهنگی میکردن.
On a eu l'Association nationale de la musique sous la direction du colonel Vaziri et de Ruhollah Khaleri. Les grands orchestres de la radio, composés de 60 musiciens sous la direction de Hannone, Kasravi, Nanseri, Tajvidi. Tous des musiciens remarquables. En 1979, après le changement de régime, pendant
15 ans,
on a empêché les chanteurs et les musiciens de se produire à la maison de la radio.
تا به هر حال که سال 1373 خودمون که من نمیدونم
شانته پور لا ناتور
چی میشه
کوردو کلر دو لون لز اوزو 94
94
je viens en France.
Marzi est l'une des cantatrices les plus adulées de la moitié du XXe siècle en Iran, réduite au silence à l'arrivée de la révolution évidemment islamique en 1979, contrainte au silence pendant plus de 20 ans et qui enfin obtient de s'exiler en France en 1994 où elle est morte à Neuilly-sur-Seine. Évidemment, ça c'est le lot des femmes, quand bien même elles auraient été des grandes figures de cette musique classique persane qui connaît un véritable regain évidemment au moment de l'avènement de la révolution islamique. Sa popularité remonte en flèche au milieu des années 80. Disons qu'il y a à l'époque deux courants dans l'interprétation de cette musique traditionnelle persane. Il y a des musiciens de la jeune génération, qui étaient évidemment des partisans de cette révolution islamique, qui produisent des œuvres qui servent essentiellement à exprimer la voix du peuple, plutôt proche du cantique, en tout cas de musique faite pour plaire aussi aux mollahs. Et d'autre part, des puristes de la musique classique persane, qui eux tentent d'esquiver les sujets politiques et qui s'en tiennent au répertoire traditionnel. Il y a finalement des stars qui émergent dans ce contexte, et parmi eux un homme très important qui sort en 1986 un album qui va réconcilier finalement les deux tendances de cette musique classique persane. Bidat, cela signifie injustice en persan, mais c'est aussi le nom de l'un des gouchers, l'un de ces pièces modales du répertoire persan traditionnel dans cet album. Celui qui s'appelle donc Mohammad Reza Shajarian et qui va devenir l'une des immenses stars de cette musique classique persane, adulée encore jusqu'à aujourd'hui, retrouve finalement le lien avec la poésie de Hafez ici.
Thank you.
Mohamed Reza Shajarian, l'une des grandes stars, née en 1950, hein, de ce renouveau de la musique classique persane, à la fois portée évidemment par le régime, tout en étant toujours encadrée par lui. Il reste une grande frange des mollahs qui ont du mal à tolérer, disons, l'enthousiasme que suscite la musique, si classique fut-elle. À ses côtés, d'ailleurs, très proche collaborateur de lui, une autre star, figure extrêmement importante, à la fois en Iran et pour son soft power, celle de Shahram Nazeri, qui est d'origine kurde et qui lui a été l'un des tout premiers musiciens classiques, musiciens surdoués de génie, adulé dès ses 18 ans, à introduire la poésie de Rumi et donc la poésie soufie dans la musique classique persane. Il fait partie de ceux qui ont véritablement porté ce soft power de la musique classique persane à la fois en Iran, où il a une fanbase immense, mais aussi en France et un peu partout. Ce sont des figures très particulières, celles de ces musiciens qui joue le rôle d'ambassadeur et qui néanmoins, à quelques moments, peuvent exprimer à l'occasion des points de vue politiques, comme par exemple en 2014, quand Shahram Nazeri s'était dit Kermasha, avait déclaré qu'il ne parlait pas le persan, ce qui lui avait valu des accusations d'être un kurde nationaliste. Néanmoins, Shahram Nazeri et Hafez, son frère, poursuivent leur exploration du répertoire de la musique classique et son renouvellement, comme vous pouvez l'entendre ici dans un sublime album, La passion de Rumi. Shahram Nazeri et Hafez, son frère, dans La passion de Rumi. C'est la fin de cette série musicale. Évocation, évidemment, évocation légère, absolument subjective de ce que pouvait cette musique classique et traditionnelle. Persane, La semaine prochaine, on parlera, on écoutera évidemment de la pop. Cette émission a été réalisée par Camille Mati, mise en onde par la merveilleuse Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée avec le concours de Lou que vous viez. Je remercie Rémi Vorano pour ses conseils de prononciation. À la semaine prochaine, à l'année prochaine.
منم در موج دریاها